Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur 90 FM.
Et vous écoutez Radio B. Bienvenue.
Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage au cœur du patrimoine local de la Plaine de Lain.
Nous, les élèves de 4e du collège Vaugelas de Meximieux, nous avons choisi de vous parler du village médiéval de Pérouges.
Entre tradition, architecture et culture, chacun de nous a exploré un aspect de ce lieu unique que nous allons vous présenter.
Pour commencer, nous allons vous parler d'un élément central du village, son église.
L'église de Pérouges est l'un des bâtiments les plus anciens du village.
On écoute Alice, Marie et Salomé pour en apprendre plus sur son histoire.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre émission. Je suis Salomé.
Moi, je suis Marie.
Et moi, Alice. Nous allons vous parler de l'église de Pérouges.
C'est l'église Sainte-Marie-Madeleine. Elle se trouve à l'entrée de la cité médiévale.
Elle a été construite en 1440 en remplacement de la petite église Saint-Georges. Elle avait un but religieux, mais pas seulement. Elle servait aussi de forteresse à la ville.
C'est pour ça qu'elle est équipée de meurtrières et qu'elle est surnommée l'église forteresse.
Mais alors les filles, savez-vous ce qu'est qu'une meurtrière ? Les meurtrières, ce sont de petites fentes créées dans les murs pour laisser passer les armes et attaquer les ennemis.
D'où leur nom. D'ailleurs Marie, tu sais quel est le style architectural de l'église ?
Oui, c'est une église de style gothique.
Le style gothique, c'est une façon de construire des bâtiments. Il date de la deuxième partie du Moyen-Âge.
C'est la même architecture que l'on retrouve à Notre-Dame de Paris.
Le style gothique se définit par ses hauteurs grâce à ses ogives.
Mais c'est quoi une ogive ?
C'est une arche pointue qui permet de soutenir le toit de l'église.
Mais dans l'église Sainte-Marie-Madeleine de Pérouges, ce style n'est pas très prononcé, car elle reste avant tout une forteresse, surtout sur la façade.
Ce qui est très original pour une église.
De plus, il y a à l'intérieur 10 statues, dont une de Saint-Georges, le protecteur de la cité.
Une de la Vierge à l'Enfant, au-dessus de l'entrée de l'église.
Et une de la fameuse Sainte-Marie-Madeleine.
Alors Marie-Madeleine, c'est qui ?
Marie-Madeleine était une fidèle de Jésus.
C'était aussi une amie de la Vierge Marie.
Sa statue est là depuis la construction de l'église.
L'église Sainte-Marie-Madeleine à Pérouges a été inscrite à la liste des monuments historiques en mai 1912.
2 ans avant la Première Guerre mondiale.
Maintenant, l'église est utilisée comme lieu de spectacle et de concert.
Par exemple, à Noël 2024, un chœur d'enfants a chanté au sein même de l'église.
Mais il n'y a pas que des concerts dans l'église, il y a aussi des cérémonies et des sacrements.
Pour ceux qui ne savent pas, les sacrements comportent les mariages, les baptêmes et les communions.
Et les confirmations.
Ce sont des cérémonies dans la vie des chrétiens.
N'hésitez pas à venir visiter cette belle église à Pérouges.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Pour mieux comprendre l'histoire du village, Alexis et Alexandre vont maintenant nous raconter l'évolution de Pérouges, de sa fondation à aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis.
Et moi je suis Alexandre. Et avec Alexis, nous allons vous présenter l'histoire de la cité médiévale de Pérouges.
Pérouges est située dans le département de l'Ain. Cette ville est toute proche de notre collège Vaugelas de Meximieux.
Avant de vous parler de son histoire, nous allons tout d'abord vous présenter la ville. C'est une petite commune située à 30 minutes de Lyon. Elle est célèbre pour son village médiéval, remarquablement bien conservé. Classé parmi les plus beaux villages de France. Désolé. Grâce à son architecture moyenâgeuse et son rempart en forme d'éclipse, ces derniers ont été classés comme un monument historique.
La ville est aussi reconnue pour ses excellentes et gourmandes galettes au sucre.
Un peu de sérieux, je reprends. La ville est aussi populaire pour ses nombreux festivals pendant toute l'année, comme le printemps de Pérouges actuellement.
Maintenant, nous allons commencer à vous raconter l'incroyable histoire de Pérouges. Tout commence entre l'an 1200 et 1300. C'est seulement 100 ans plus tard que ces grandes murailles de 8 mètres apparaissent. Au même moment, la cité de Pérouges connaît une grande prospérité, notamment grâce à ses commerces de textiles et de tissus, particulièrement à la production de draps. Cela a contribué à son développement économique.
Durant la guerre de Cent Ans, Pérouges a été attaqué par des pillards et des violences liées à la guerre. Même si le village n'a pas été complètement détruit, cette période a marqué un moment de déclin à cause de la perte économique due à la guerre.
Mais Pérouges a été reconstruite, malheureusement, peu de temps après sa reconstruction, car il y a eu la guerre des religions. Cette guerre opposant catholiques et protestants lors du XVIe siècle a provoqué de nombreuses attaques par les belligérants, ont recréé le même déclin pour Pérouges, en plus d'un isolement du village.
Après cette guerre, Pérouges fut abandonné économiquement.
Au au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et le développement de Lyon, de nombreuses petites communautés comme Pérouges ont été abandonnées par ses habitants pour rechercher du travail. Le village a été recommencé à tomber en ruine.
Aux alentours de 1920, des personnes se sont donné un objectif de restaurer le malheureux village de Pérouges. Puis, durant le XXe siècle, les gens ont recommencé à s'intéresser à Pérouges. Des historiens et des architectes et des autorités locales se sont rendus compte de la valeur historique de Pérouges. En 1940, les Pérougiens font énormément d'efforts de restauration. Cela a beaucoup fonctionné. Peu après, Pérouges reprit vie. La ville a attiré beaucoup de touristes et la ville est devenue connue.
Maintenant, vous connaissez l'incroyable histoire de Pérouges. Sur ce, on vous dit à bientôt et bonne visite.
Merci à vous. Et pour compléter ces éléments historiques, Hamza et Enoa ont rencontré Martin Thibault, restaurateur dont la famille est présente à Pérouges depuis plusieurs générations.
Alors bonjour, quelle est l'origine de la cité médiévale de Pérouges et à quelle période remonte sa fondation ?
Bonjour, malheureusement, on n'a pas beaucoup de traces très anciennes. Les traces les plus anciennes remontent au XIIe siècle, à l'époque des croisades. C'est le seigneur de Pérouges de l'époque qui est parti en croisade avec des Pérougiens. Et on sait qu'il a construit un château à Pérouges et qu'il a donné son blason pour la ville de Pérouges. Ce qu'on peut dire, c'est que on sait qu'il y avait une tour romaine aussi à Pérouges et elle a servi de base à la construction du château. Si on veut remonter encore dans le temps, on peut se rapprocher de la ville de Perugia en Italie parce qu'il y a une légende locale qui dit que les premiers habitants de Pérouges auraient été des habitants de Perugia qui auraient fui les Romains à l'époque où les Romains ont envahi le reste de l'Italie.
Ensuite, pourquoi il y a beaucoup de pierres sur les maisons ?
Tout simplement parce que la pierre, c'est un matériau durable. Pérouges, c'est une ville médiévale qui a été construite probablement d'abord en terre. Donc les paysans qui étaient assez pauvres, ils ont construit leur maison en terre. Et les gens qui se sont regroupés près des châteaux, près des seigneurs, comme ils étaient plus riches, eh ben, ils pouvaient se permettre de construire en pierre. Donc les maisons qui restent aujourd'hui, c'est soit des maisons de personnages riches, soit des maisons qui ont été construites plus tard, quand les châteaux, les murs des villes ont été détruits. Donc ils ont récupéré les pierres pour construire avec ces matériaux.
Ensuite, je vais vous poser quelques questions sur la famille Thibault. Donc tout d'abord, quand a été fondée l'hostellerie ?
Alors, la famille Thibault, c'est une famille qui est originaire du Dauphiné. Et donc ma famille, elle est originaire de Morestel, c'est un petit village, c'est une petite cité médiévale aussi qui est pas très loin d'ici. On sait qu'ils étaient cultivateurs dans ce village il y a à peu près 250 ans. Ils ont migré à Pérouges donc vers 1750 et ils se sont mariés avec une famille de charpentiers. Donc ils sont devenus charpentiers. Jusqu'en 1900 où le dernier charpentier de la famille, il a envoyé son fils faire des études à Lyon parce qu'il était très pauvre et il voulait pas que son fils soit pauvre. Il est devenu professeur et il a rencontré beaucoup de gens très importants. Et notamment, un de ses collègues professeurs, c'est un certain Édouard Arriot, qui est devenu un de ses meilleurs amis. Et Édouard Arriot, c'est devenu le maire de Lyon. À cette époque-là, Pérouges s'était vidé de ses habitants, comme beaucoup de villages de campagne. Les maisons commençaient à être détruites. Ma famille, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ont amené Édouard Arriot. Ils ont contacté des gens qui seraient intéressés pour acheter et retaper les maisons. Ils ont trouvé à peu près 60 personnes. Donc ils ont créé une association. Cette association, elle a eu pour but de rénover le village. Donc ça s'est pas fait en 5 ou 10 ans, hein. Ça a pris des dizaines d'années même. Ces gens, quand ils sont venus s'installer dans le village, comme le village s'était complètement vidé de ses habitants, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas d'auberge, il n'y avait plus rien. Et comme toutes les maisons étaient abandonnées, les gens qui venaient habiter dans les maisons, il fallait d'abord qu'ils puissent se loger avant de pouvoir habiter dans leur maison. Donc, on a cherché quelqu'un pour ouvrir une auberge. La grand-mère de mon grand-père, elle était institutrice, et elle a dit, pourquoi pas, moi je veux bien essayer de venir l'été. Et donc, elle a commencé comme ça. Et puis finalement, elle s'est installée complètement dans le village. L'association a été créée en 1911, et l'hostellerie a été créée en 1912.
Une dernière question, quelles sont les traditions ou fêtes locales qui ont lieu à Pérouge et perpétuent son héritage médiéval ?
Il y en a une en particulier qui s'appelle la galette. Donc ça, c'est hérité d'une tradition paysanne ancienne. Le vendredi, on allumait les fours pour cuire le pain parce que c'était jour maigre et on profitait de la chaleur du four pour cuire des rôtis, des poulets, des tartes, etc. Et à Pérouge, il y avait une recette de tarte déjà connue, on appelait ça la gruiselle. Et quand la grand-mère de mon grand-père a repris l'hostellerie, elle a adapté un petit peu les recettes locales à sa sauce, et elle a appelé ça la galette. Donc ça, ça perpétue voilà, une tradition locale, paysanne, ancienne du village. Et dans les fêtes, il y a tous les ans, à la même période, au mois de juin, une fête médiévale, ça attire beaucoup de monde et ça fait parler du village.
Merci à Martin Thibault pour ses précisions. Maintenant, découvrons un lieu emblématique du village.
Clara, Naïm et Ernestine nous parlent de la place du Tilleul.
Bonjour, je suis Clara et avec mon groupe, nous avons décidé de vous présenter la place du Tilleul de Pérouge.
Moi, je suis Ernestine. La place tire son nom de l'arbre qui est planté en son milieu, surnommé le Tilleul de la Liberté.
Et moi, je suis Naïm. Effectivement, elle marque les esprits, car elle est entourée de maisons à l'architecture médiévale.
Le tilleul de Pérouge est un tilleul planté après la Révolution française en 1792, d'où le nom tilleul de la liberté. Cet arbre a actuellement 233 ans, il est donc bicentenaire.
Vous vous rendez compte ? Cet arbre a pu rencontrer mes arrière-arrière-grands-parents.
Il est classé et protégé au titre des sites naturels. Il est aussi entretenu et taillé régulièrement par l'Office national des forêts.
Ce magnifique arbre a atteint plus de 24 mètres de haut, mais ne mesure plus que 8 mètres car il est actuellement malade et son état se détériore de plus en plus.
Effectivement, le tilleul est malade à cause du sel mis sur la place les jours de gel. Ce sel a empoisonné la terre et l'arbre au passage.
Aujourd'hui, il est soutenu par des piliers de bois et la mairie est prête à tout pour le garder en état car il est emblématique.
Cette place est entourée de cafés où l'on peut se poser tout en admirant la vue. Les touristes profitent souvent de l'ombre généreuse que le tilleul apporte.
Ce lieu est un endroit idéal pour se reposer.
Aujourd'hui, nous vous avons parlé de la place du Tilleul à Pérouge, mais il en existe d'autres comme à Chazé-sur-Ain.
Nous espérons que vous aurez visité Pérouge et que vous aurez l'opportunité d'aller voir ce beau tilleul.
À bientôt sur Radio B.
Merci à vous.
Pérouge, c'est aussi un patrimoine culinaire.
Zoé, Camille et Fantine ont rencontré Sophie qui cuisine et vend les galettes traditionnelles du village qu'elle a modernisées et personnalisées.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices ?
Alors moi, c'est Sophie Chardon. Je tiens un petit stand d'emporter à Pérouge depuis maintenant 7 ans. Et donc je fais la galette de Pérouge, la spécialité, et j'ai repris le commerce familial.
Quelle est la recette de la galette ?
Alors la galette de Pérouge, c'est une pâte briochée avec un zeste de citron et du beurre et du sucre en garniture.
Combien de temps faut-il pour faire la galette ?
Alors pour la faire, concrètement, on prend le pâton, on étale et là ça me prend à peu près 2 minutes. Ensuite garniture et après je mets à peu près 3 minutes de cuisson au four.
Combien coûte la galette ?
Actuellement, elle coûte, moi dans mon échoppe, elle fait 11 euros. Mais un prix qui va sûrement devoir augmenter avec le coût des matières premières.
Si l'on veut faire une galette chez nous, quels sont vos conseils ?
Alors ce que je conseille, c'est déjà, si vous préparez votre pâte, c'est bien la préparer la veille, parce qu'il faut le temps de la maturation et tout ça. Donc c'est assez important de la faire la veille. Vous pouvez la filmer avec un film étirable, et puis après la sortir le lendemain, du coup. Ce que je conseille, c'est après un étalage avec votre rouleau à pâtisserie, de la farine, tout ça. Vous mettez votre papier cuisson, vous piquez la pâte, comme vous faites avec la fourchette, et alors beaucoup de trous, quoi. Vous faites vos petits bords, un peu de beurre, saupoudrage de sucre et vous mettez au four.
Quelle est la spécificité de la galette ?
La spécificité de la galette, c'est le zeste de citron qu'il y a dans la pâte, déjà. Et puis, c'est une recette qui a été déposée. Donc, on ne peut pas la faire ailleurs qu'à Pérouge.
Qui a inventé la galette ?
La personne qui a inventé la galette de Pérouge fait partie de la famille Thibault. C'est Marie-Louise Thibault qui a décidé en fait, de prendre une ancienne recette et de l'adapter, on va dire, de l'améliorer et de la déposer en 1912, quand ils ont en fait rénové le village.
Y a-t-il une période spécifique pour manger de la galette comme la galette des rois ?
Alors non, il n'y a pas de période spécifique. Tu peux la manger tout au long de l'année, quand tu as envie.
Qu'est-ce qui fait que la galette est aussi célèbre ?
Alors je pense qu'elle est célèbre du fait du village, en fait, parce que c'est un village qui est très prisé par le tourisme. En plus, on n'est pas très loin de Lyon, donc on a beaucoup de Lyonnais. C'est du tourisme local, Et puis, ça fait toujours quelque chose. Voilà, on fait son petit tour de Pérouge, on visite, et puis on mange après, à la fin, la galette. Et donc, ça fait un peu partie, on va dire, du patrimoine local.
Combien de personnes font la galette à Pérouge ?
Alors, on est nombreux à faire de la galette à Pérouge. Je sais que tous les restaurants en font, et on est, donc ça fait 5 restaurants. Vous avez en plus la boulangerie qui en fait. Vous avez à l'entrée le maire, enfin l'ancien maire de Pérouge qui faisait de la galette dans son échoppe. Donc voilà, je crois que ça fait 8. Du coup, on est 8 avec moi.
Il me semble que vous ne faites pas que la galette traditionnelle.
Effectivement. En fait, j'ai décliné la même base en fait, de la pâte sur la garniture salée. Donc ça peut ressembler à une pizza, mais c'est pas la même pâte en fait. Et parce que ma tante l'avait fait, elle le faisait pour les événements comme la fête médiévale, tout ça, et elle le faisait de temps en temps. Et puis moi, vu que faire de la galette toute la journée, bon bah voilà, j'étais intéressée de pouvoir varier un peu les choses. Donc j'en ai proposé 4 sortes. Au départ, elle faisait que la crème oignon lardon. Et moi, j'ai rajouté la tomate mozzarella origan qui va ressembler un peu à la pizza. J'ai la crème ravioles lardon et la crème bleu de Brest cumin, du coup le bleu qui viendrait du coin aussi. Donc ça permet d'avoir une déclinaison salée pour toutes les personnes qui ont envie de manger bah, le midi. Et puis en plus, ça me permet de faire connaître aussi aux gens du coin des choses différentes, parce que c'est vrai que la galette, ils connaissent bien. Bon, au bout d'un moment, ils en ont un petit peu marre. Et d'avoir une déclinaison salée, bah, ça fait un plus, quoi.
Qu'est-ce qui vous a amené à reprendre le commerce familial ?
Alors en fait, pour l'histoire, mon père était restaurateur. Il tenait de son père le restaurant qui était sur la place. Il y a 7 ans, ma tante, elle tenait le commerce. Elle l'avait depuis 87. Mon père lui avait repris, avait créé une petite boutique souvenir. Récemment, elle a eu des problèmes de santé. Enfin, récemment, ça fait quelques années maintenant. Et elle se sentait plus à faire ce travail parce que c'est quand même un peu physique. Et puis, ça, c'est stressant, quoi. Donc, moi, je travaillais pour mon père dans la boutique souvenir en face. Et on a échangé, en fait, nos places. Elle m'a proposé de reprendre son commerce. Moi, j'étais très contente parce que je fais ça depuis que j'ai à peu près 13 ans. Donc j'ai repris son commerce, et maintenant ça va faire 7 ans, et voilà, c'est chouette, ça permet de perpétuer une tradition.
Pour finir, quelles sont les périodes d'ouverture de aux galettes des Sophies ?
Alors moi je suis ouverte le samedi et le dimanche, de 11h à 18h. Pendant les vacances scolaires, je suis ouverte le samedi, dimanche, lundi, mardi, aux mêmes horaires.
Merci Sophie d'avoir répondu à nos questions.
Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée, et c'était chouette de vous rencontrer.
En parlant d'histoire et de tradition, un lieu incontournable est le musée du Vieux Pérouge.
Maïssa et Talia vous en disent plus.
Bonjour à tous. Moi, Maïssa et ma camarade de classe Talia, nous allons vous présenter le musée du Vieux Pérouge. Ce dernier s'appelle la Maison du Prince.
Bonjour, je suis Talia. Quand on se balade dans les rues pavées de Pérouge, on tombe sur une maison avec une grande façade en pierre et des fenêtres à croisillons. Derrière celle-ci se cache la magnifique Maison du Prince. Je vais vous la présenter quand elle était encore habitée. Alors, Maïssa, peux-tu nous dire quand a été construite cette maison ?
Oui, la maison du prince a été construite au XVe siècle. Cette maison était l'ancienne propriété des ducs de Savoie.
En effet, quand le château de Saint-Georges d'Espéranche a été détruit, les ducs de Savoie n'avaient plus de logement. C'est pour cela que le château du prince a été construit.
Mais c'est quoi le château de Saint-Georges d'Espéranche ?
C'est un château ayant accueilli plusieurs membres issus de familles royales, et aussi un pape, Grégoire X.
Waouh, alors les ducs de Savoie devaient être des gens remarquables pour vivre avec des personnes aussi importantes.
Oui, au XVe siècle, les ducs de Savoie étaient considérés comme de grands princes. C'est de là que la maison tient son nom. Mais Maïssa, est-ce que la maison du prince est dans le musée du Vieux Pérouge ?
Oui, la maison du prince est bien dans le musée du Vieux Pérouge.
Et qu'y a-t-il dans ce musée ?
Alors, ce musée contient d'anciens objets appartenant à la famille des ducs de Savoie, d'anciennes armes et de grandes expositions de peintures.
Intéressant, mais avec des œuvres pareilles, combien de visiteurs le musée accueille-t-il ?
Ils accueillent aujourd'hui entre 300 000 et 400 000 visiteurs chaque année.
Mais Maïssa, dis-moi, est-ce que c'est vrai que le château possède de magnifiques cheminées ?
Oui, la Maison des Princes contient les plus belles cheminées monumentales de la cité, et elle fut même classée monument historique en 1921.
Incroyable ! Savais-tu que la visite du musée est jumelée avec les 4 salles d'exposition temporaire de la Maison du Prince ?
Bien sûr, puisque des artistes de renommée internationale y sont invités chaque année. En revanche, je ne sais pas lesquels.
Pour commencer, il y a eu le célèbre sculpteur Vincent Batbeda en 2005 et le grand peintre Louis Lemos en 2012.
Génial. Eh bien, merci. J'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la Maison du Prince. Au revoir.
À bientôt.
Pérouge, ce n'est pas seulement le passé. C'est aussi un village vivant avec des événements culturels.
Notamment le fameux Printemps de Pérouge.
Naïla et Marion ont rencontré Marie Rigaud, créatrice et directrice du festival.
Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis donc Marie Rigaud, je suis la créatrice et organisatrice du festival Le Printemps de Pérouge qui existe déjà depuis 28 ans.
D'où vous est venue l'idée d'organiser le festival ?
Alors l'idée m'est venue en me promenant dans l'église forteresse de Pérouge. J'avais 24 ans et j'ai craqué, je dois le dire, d'abord pour la tarte au sucre. La gourmandise a eu raison de moi et l'église forteresse, qui se trouve à l'entrée de la cité, qui en effet m'a inspiré la musique, des concerts. Donc ça a démarré comme ça, par des concerts de musique classique dans l'église forteresse de Pérouge.
Combien de personnes participent à l'organisation du festival ?
Alors il faut beaucoup de monde pour organiser ce festival. D'abord en équipe permanente qui travaille toute l'année sur le festival, on est quand même 7 personnes à plein temps à préparer la programmation, à préparer l'organisation logistique, technique, la communication, la mise en vente de la billetterie, l'administratif, plus beaucoup de bénévoles, puisque c'est une association loi 1901 qui organise le festival. Donc on a 400 bénévoles qui ensuite nous accompagnent pendant le festival et même pendant l'année pour gérer beaucoup de choses, notamment le matériel du festival, organiser nos réunions pendant l'année, gérer notre stockage. Et puis il faut aussi des professionnels du spectacle vivant, des techniciens, des gens qui font du son, de l'éclairage, qui montent des échafaudages, qui montent la scène, qui montent les gradins, qui montent les décors. Et là, on a 200 intermittents du spectacle pendant le festival sur une période d'à peu près un mois. Donc, on est 7 pendant l'année et on est 600 pendant un mois entre les bénévoles, les professionnels et l'équipe encadrante. Donc, ça fait beaucoup de monde.
Est-ce compliqué de gérer tout le monde ?
Alors, je suis pas toute seule d'abord à gérer tout le monde. Comme tu dis, on est donc une équipe de professionnels permanents toute l'année. Et c'est pas si compliqué que ça parce que finalement, on a quand même un peu d'expérience maintenant au bout de 28 ans. Donc, chacun connaît sa mission, sa tâche. Les professionnels, évidemment, maîtrisent leur secteur. Donc, globalement, ça se passe quand même plutôt bien.
Comment arrivez-vous à gérer vos émotions ? Cela doit être stressant.
C'est vrai que c'est stressant, mais je dois dire que j'aime certainement avoir du stress, puisque on absorbe assez bien le stress dans notre métier, on n'a pas tellement d'autres choix. Donc ça fait partie d'une émotion un peu, d'un sentiment chez nous assez normal, finalement, assez habituel, avec lequel on fait plutôt bon ménage.
Comment contactez-vous les célébrités et chanteurs ?
Alors, on ne les contacte pas directement. Hein. On passe par leurs agents. Et c'est un vrai métier parce que ce n'est pas l'artiste qui va gérer son planning tout seul comme un grand. Et donc on passe un contrat, un deal d'abord, un accord, et puis ensuite un contrat avec l'agent de l'artiste.
Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer des stars ?
Ça me fait plaisir. Souvent, on a fait quelques belles rencontres, notamment avec Johnny Hallyday. Selon les stars, on a plus ou moins d'abord le temps de discuter avec eux, plus ou moins de feeling. Mais globalement, c'est des gens assez normaux, heureusement, qui sont toujours super contents d'être chez vous.
Et avez-vous une anecdote ?
Je parlais tout à l'heure en effet de Johnny. Là, on va bientôt avoir Eddie Mitchell. Donc, on aime bien avoir des jeunes artistes. On aime bien aussi avoir les anciens qui font partie du patrimoine, justement, de la chanson française. Donc, on va être assez émus, en effet, d'accueillir cet artiste qui fait partie du patrimoine. Une anecdote aussi, ça a été ma rencontre sur scène avec Sting. C'était vraiment chouette. Très sympathique, très accessible, très facile. Mais voilà, j'ai appris, en tout cas, à pas me laisser impressionner plus que ça par les artistes qui sont finalement d'abord des gens qui sont aussi contents qu'on vienne les voir et parler avec eux et qui sont seuls, finalement. Quand ils sont seuls sur scène, même avec leur... leurs musiciens derrière, ils sont quand même drôlement exposés, ils ont drôlement la trouille aussi, ils sont drôlement seuls, donc ils ont quand même parfois, ils sont contents aussi qu'on vienne les voir pour leur dire merci.
Où se déroule l'événement ?
Alors l'événement au début s'est déroulé bien sûr à Pérouge, comme je vous le disais, dans l'église forteresse. Pendant des années, ça a été ça le démarrage. Et puis petit à petit, on a cherché des lieux quand même plus adaptés et plus grands aussi pour faire de la musique actuelle et des concerts de variété. Et on est arrivé par chance, il y a 3 ans de ça maintenant, dans un endroit que vous devez connaître, qui est la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. À Saint-Maurice-de-Raymond. On est à quelques kilomètres de Pérouge. On a gardé le nom parce que les gens nous connaissent sous ce nom-là. Donc, on a gardé en fait ce qu'on appelle une marque qui est le Festival du Printemps de Pérouge, mais qui pourrait finalement se passer un peu n'importe où.
Quel est l'avenir du festival ?
Alors, c'est une question que je me pose aussi, bien sûr. Mais pour l'instant, l'avenir a plutôt été lumineux et l'horizon éclairci puisque ça dure depuis si longtemps. Ben, on espère durer, se renouveler, trouver de nouvelles idées chaque année, des nouveaux artistes, avoir de plus en plus de festivaliers, ce qui est le cas pour l'instant. C'est vraiment un festival aujourd'hui qui est fort dans le département et qui est fort sur le territoire de la plaine de l'Ain. Donc l'avenir, ben, j'espère qu'on va fêter nos 30 ans. Ce sera dans 2 ans, ce sera déjà pas mal. Et puis après, ben, on verra.
Si Pérouge est aussi bien conservé aujourd'hui, c'est grâce à certaines initiatives de particuliers.
Comme l'évoquait Alexis et Alexandre tout à l'heure, Édouard Herriot, personne locale et nationale, y a bien contribué.
Tom, Marin et Gabin nous le racontent.
Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Tom et aujourd'hui, mes camarades et moi allons vous présenter Édouard Herriot qui a, en quelque sorte, sauvé Pérouge. Bonjour Marin, bonjour Gabin.
Bonjour Tom et Marin.
Bonjour Gabin et Tom.
Tout d'abord, Édouard Herriot est un homme politique français du début du XXe siècle. Né en 1872 et mort en 1957, il a été ministre plusieurs fois, notamment chef du gouvernement sous la 13e et 14e législature de la 3e République.
Maire de Lyon pendant 47 ans sans compter les 5 ans de la Seconde Guerre mondiale, Édouard Herriot a aussi été président de la Chambre des députés puis de l'Assemblée nationale. Il a été élu à l'Académie française en 1946. Il occupait le fauteuil numéro 8.
Il est l'un des fondateurs du comité du Vieux Pérouge. Ce comité vise à sauvegarder le patrimoine de la cité médiévale de Pérouge dans l'Ain.
En 1909, la démolition de la cité médiévale est envisagée. Celle-ci provoque l'opposition de M. Athelme Thibault. Ce dernier tente d'alerter la presse sur cette destruction.
En 1911, est créé à Lyon le comité de défense et de conservation du Vieux Pérouge. L'un des principaux fondateurs est donc Édouard Herriot.
Le comité participe activement à la restauration des maisons médiévales de la cité et crée dès 1912 le musée du Vieux Pérouge, mais nos camarades vous en parleront tout à l'heure.
Merci de nous avoir écoutés et nous rendons la parole aux animateurs. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Quand on parle de patrimoine local, on pense aussi à un savoir-faire artisanal.
Fred est artisan à l'échoppe du bois au cœur de Pérouge. Sémiralis et Clara l'ont rencontré.
Bonjour Fred, merci d'avoir accepté notre invitation. Présentez-vous aux auditeurs.
Je m'appelle Fred, je suis artisan créateur dans la cité médiévale de Pérouge avec ma femme Manu. On fait des créations en bois.
Quelles sont les études que vous avez suivies pour avoir ce travail ?
Je dirais aucune ou en tout cas pas celle qui permettait de faire ce travail puisque j'ai une formation dans la communication et le marketing au départ. C'est des métiers dans lesquels j'étais pas heureux du tout et j'ai fini par faire ce qu'on appelle un burn-out. Et ma femme a eu la très bonne idée de me dire on essaie de changer de vie, on part de la ville parce qu'à l'époque on était en ville à Lyon et on verra ce qui se passera.
Cela fait maintenant combien de temps que vous pratiquez ce métier ?
À peu près 9 ans. Quand on est arrivé à Pérouge, j'ai d'abord commencé juste par bricoler avec du bois de palette. Puis un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, c'est joli, tu devrais le vendre ». Et je me suis dit « C'est peut-être une idée de reconversion ». Donc j'ai commencé à chercher des informations sur Internet. Et j'ai appris petit à petit ce métier en regardant des vidéos. Un jour, on a fini par se lancer parce que Manu m'a rejoint. Et on s'est lancé justement... ensemble, il y a 4 ans en fait.
Pourquoi avoir choisi Pérouge et est-ce que c'est un avantage pour un artisan ?
On vivait à Pérouge, on s'est dit qu'on avait très envie de travailler dans le village dans lequel on habitait Et on a présenté notre projet à la mairie, en fait, qui nous a accueillis avec enthousiasme parce qu'il n'y avait pas encore d'artisans du bois dans la cité. Pour une deuxième raison, c'est que quand on est artisan, il y a un point qui est important, c'est la visibilité. Soit il faut faire beaucoup de publicité et on n'avait pas trop envie de le faire, soit il faut avoir la chance de vivre dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Et c'est le cas puisque la cité médiévale de Pérouge, c'est plus de 350 000 visiteurs par an.
Comment pratiquez-vous votre travail? Est-ce qu'il y a différentes techniques?
Dans le travail du bois, on peut aussi bien faire de la sculpture. Ma femme sculpte par exemple des bijoux et aussi des animaux, puisqu'elle était soigneur animalier en fait. Elle travaillait en zoo, elle s'occupait des primates. Mais il y a aussi l'assemblage, quand on fait des boîtes, des coffrets, des meubles, ou même des jeux, les jeux en bois, il peut y avoir du tournage, mais le tournage sur bois, on en fait très peu, parce qu'il y a un tourneur, quelqu'un qui est à la retraite à Pérouge et qui a parfois un stand, et on ne voulait pas marcher sur ses plates-bandes en arrivant, puisqu'il y a plein d'autres possibilités, entre autres la sculpture, l'assemblage.
Combien de temps travaillez-vous en moyenne par jour ?
Avec Manu, on alterne, c'est-à-dire que le matin, je suis à l'atelier, je fais de la fabrication et Manu est à la boutique. Donc moi, je travaille le matin dans l'atelier, environ 4 heures, et puis l'après-midi à l'atelier boutique, donc environ 4-5 heures. Et donc Manu fait l'inverse. Et puis parfois, on travaille jusqu'à 11 heures dans une même journée, simplement parce qu'on est sur un projet soit urgent ou soit un projet qui nous passionne tellement qu'on ne voit pas le temps passer.
Trouvez-vous votre métier facile ou il vous demande beaucoup de concentration, de temps et d'énergie ?
Il demande de la concentration parce qu'on fait un travail qui nous passionne, parce qu'on aime ce qu'on fait. Bah, finalement, c'est très facile. Parfois, les clients, ils partent en nous disant « bon courage ». Et on a envie de leur dire « si vous voyez un enfant en train de jouer au Lego dans sa chambre, vous ne sortez pas en lui disant « bon courage ». Vous lui dites « amuse-toi bien ». C'est ce qui serait pertinent dans notre cas, c'est « amusez-vous bien » parce qu'on s'amuse. On ne cherche pas à vendre des souvenirs, on ne cherche pas à vendre des produits à la mode. On cherche juste à transmettre du plaisir à travers les pièces qu'on fabrique. Et a priori, c'est plutôt bien reçu. Alors si j'avais un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, il faut saisir l'opportunité de faire un métier passion. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais c'est une prise de risque ». De changer de vie comme ça. Et en fait, la vraie prise de risque pour nous, c'est de passer sa vie à faire un métier qu'on n'aime pas. Passer sa vie à se lever le matin en pensant qu'on va aller rencontrer des collègues avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs pour une entreprise qui ne nous fait pas rêver. Et je pense qu'on est tous faits pour à la fois être créatifs et à la fois utiliser ses mains et sa réflexion. Et l'artisanat, c'est quelque chose qui offre tout ça. Que chacun peut trouver un truc qui le fait vibrer. Les premiers mois où on a vécu cette situation-là, on avait l'impression que c'était trop beau pour être vrai. Et puis, on s'est habitué et on aime bien tout ça. Je le souhaite à tout le monde.
Pour terminer notre voyage dans Pérouge, nous allons découvrir un lieu intemporel, ses jardins.
On écoute Fedi et Elio.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fedi et je suis accompagné de mon camarade Elio. Nous allons vous présenter aujourd'hui un des jardins de la cité médiévale de Pérouge nommé Hortulus, qui se trouve à la Maison des Princes.
Nous allons répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un Hortulus et d'où vient ce mot? Leur composition? Où était-il placé? Et enfin, qui cultivait les Hortulus?
L'Hortulus vient du mot latin horti, qui signifie jardin ou petit jardin moyenâgeux à composition géométrique.
Un hortier était principalement situé près des monastères, des abbayes, des cloîtres, autour des bâtiments religieux et enfin vers les zones rurales. C'était principalement les moines et parfois les nonnes, il y avait aussi des paysans et les serfs. Alors Toulouse est composé de 3 carrés potagers.
Le carré d'amour composé de pivoine et de violette qui symbolise l'innocence, l'amour éternel, la modestie et enfin la sagesse spirituelle.
Le carré potager, composé de rhubarbe, de persil et bien d'autres encore, vous pouvez ainsi faire une bonne salade.
Et enfin, le carré médicinal, qui est composé de sauge et de menthe. La sauge favorise la digestion et apaise les inflammations internes. La menthe, elle, aide contre les maux d'estomac et de nausées.
Vous pouvez le visiter du mercredi au dimanche, de 10h à 18h. Merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite une excellente journée.
Merci. Avant de conclure, on va tester vos connaissances.
Mathéo, Nathan et Titouan vous ont préparé un quiz sur Pérouge. Écoutez bien et essayez de répondre.
Bonjour, chers auditeurs. Aux auditeurs, auditrices, nous sommes Mathéo,
Nathan
et Titouan
du Collège Vosgelas.
Nous allons voir si vous avez écouté nos camarades sur les autres émissions sur la cité de Pérouge.
Nous allons faire cela sous forme d'un jeu avec un quiz. C'est parti!
Pérouge est-il l'un des plus beaux villages de France? Oui ou non?
La réponse est oui.
Et c'est la seule ville de l'Ain à avoir ce label.
On continue. Qui a créé la cité de Pérouge? 1. Le comte de Forez. 2. Guichard Ier.
C'était un piège. Les deux l'ont fondé et fortifié.
Ne vous inquiétez pas, les prochaines questions sont plus faciles.
Dans quel département se situe la cité médiévale de Pérouge? 1. Le Rhône. 2. L'Ain. 3. L'Isère.
Vous le saviez, c'est dans l'Ain. On vous l'a dit en début d'émission.
Avant sa rénovation, quel était le sort réservé à Pérouge en 1909? Détruire le village? Le vendre ou le transformer en musée vivant?
Eh oui, on voulait détruire la cité de Pérouge.
À quelle altitude se situe la cité de Pérouge? Réponse 1, entre 250 et 350 mètres. Réponse 2, entre 200 et 300 mètres. Et réponse 2, vers moins 56 mètres.
Eh oui! Pérouge se situe entre 200 mètres et 300 mètres de hauteur.
Qui fut l'un des fondateurs du comité du Vieux Pérouge pour la préservation du site? 1. Jean Moulin. 2. Édouard Riot. 3. François Ier.
Le Lyonnais Édouard Riot est le fondateur du comité du Vieux Pérouge.
En 1601, par quel traité le village est-il rattaché au Royaume de France? Le traité de Versailles? Le traité de Lyon? Ou le traité de Pérouge?
Et oui, c'est le traité de Lyon.
Enfin, combien la ville a-t-elle eu de blasons? Réponse 1, un blason. Réponse 2, 3 blasons. Réponse 3, 4 blasons.
Et Pérouge a eu 3 blasons.
Notre quiz est terminé.
Je suis sûre que vous avez été très bon.
Bravo à vous!
Notre émission touche à sa fin.
On espère que vous avez appris plein de choses sur ce village emblématique de la région.
On remercie tous nos invités,
notre professeur Madame Nommé
et la communauté de communes de la Plaine de l'Ain d'avoir rendu ce projet possible.
Bien sûr, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés.
À bientôt
sur les bonnes ondes de Radio B.